mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis, bienvenue aux auditeurs.
Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs. J'envisage cette semaine de parler de management et ce que l'anthropologie de René Girard peut nous en dire.
Halte-là Jean-Louis. D'abord, tu emploies un mot anglais. Que fais-tu donc de la langue française ? Et ensuite, l'activité que tu désignes ne va pas intéresser tout le monde, seulement ceux qui ont envie d'être des chefs.
Désolé pour l'emploi du mot management. Ce que j'ai en tête est en effet la fonction de diriger ou conduire une équipe. Bref, d'assumer la responsabilité d'une collectivité. Je pense que les enseignements de Girard peuvent intéresser tout le monde. D'abord parce qu'il se trouve beaucoup plus de personnes concernées qu'on ne l'imagine. Bien sûr, on pense aux managers dans les grandes entreprises. Mais le rôle de conduire une équipe se situe à de nombreux niveaux, du contremaître jusqu'au PDG. Et puis nous trouvons des rôles de responsables de groupe ailleurs que dans les entreprises, dans les associations de toutes sortes, dans les clubs sportifs, dans les coopératives, dans les partis politiques, les communautés diverses, etc. Je ne parle même pas de l'armée ni non plus de l'Église. Dès qu'il existe une communauté, une activité sociale, ce rôle de dirigeant, de chef, apparaît.
D'accord.
J'irai même plus loin. Les enseignements de Girard sur cette fonction de responsabilité d'un collectif concernent aussi ceux qui ne sont pas eux-mêmes des chefs ou qui ne désirent pas le devenir. Parce que tout le monde a, d'une manière ou d'une autre, un chef ou quelque chose d'équivalent. Son action est visible et il est important pour chacun d'évaluer correctement comment ce chef accomplit sa mission.
Est-ce à dire que les enseignements de Girard sur le management, allez, je reprends ce terme affreux, peuvent servir à évaluer un député ou même un président ?
Tout à fait.
Entrons, Jean-Louis, dans le vif du sujet et explique-nous ce que la théorie de René Girard dit à propos de l'art de diriger les autres.
La première chose, c'est qu'un chef doit avoir une intention quant au collectif dont il a la responsabilité. Par exemple, un chef de chœur propose à la chorale qu'il dirige des œuvres qui la font progresser en vue de l'objectif de chanter tel ou tel morceau difficile. Disons tout de suite que cette intention doit avoir un sens et de la valeur pour tous les membres du collectif. Un dirigeant qui ne songe qu'à son propre plaisir ou à sa propre ambition ne jouera pas correctement son rôle. Il ne pourra pas prétendre incarner le collectif. Dans des systèmes hiérarchiques organisés comme les entreprises, il arrive que soient nommées dans des fonctions de management des personnes qui n'ont pas d'intention pour l'équipe qui dirige. Ils pensent bien faire en se contentant d'être un rouage dans une machinerie. C'est une erreur. Pas d'intention incarnée, pas de dynamisme. Tout le groupe tombe alors dans la routine. Et c'est l'anthropologie de René Girard qui nous explique tout cela.
Et de quelle façon ?
Le responsable d'un groupe doit incarner une intention, disions-nous. Exprimons cette idée en langage girardien. Une intention, c'est un désir. Et ce désir doit être partagé par les membres de l'équipe. C'est-à-dire que le chef doit être le médiateur, au sens de Girard, du désir de tous les membres du groupe pour l'activité qui les rassemble. Les membres du groupe se mettent à désirer par mimétisme l'intention dont le chef manifeste son propre désir. Si le dirigeant ne désire rien, ou ne désire que des choses qui le concernent personnellement, comme des promotions ou des primes, il ne peut pas être le médiateur de son équipe. Ses membres n'auront ainsi aucun but collectif et le groupe ne fonctionnera que par routine.
J'ai une question, Jean-Louis. Lorsque le groupe en question exerce une activité cadrée ou se trouve dans le bas de la pyramide hiérarchique, comment le responsable peut-il incarner une intention propre ? Les objectifs sont fixés par l'organisation. Considère une équipe de comptables, par exemple. Je ne vois pas trop comment son responsable peut nourrir une intention particulière et la faire partager.
En pratique, il y a toujours moyen de le faire. Progresser, utiliser des outils nouveaux, changer les routines, améliorer le climat de travail, etc. On a toujours plus de marge de manœuvre qu'on imagine. Les règlements, instructions, procédures et consignes qui tombent des strates supérieures sont incapables de contenir tout ce qui fait la vie d'un groupe. Et c'est là que le manager va trouver une intention à incarner et un rôle de médiateur à jouer.
La pensée de René Girard suggère-t-elle d'autres recommandations?
Oui, en voici une deuxième. Un bon responsable doit être à la fois proche de son équipe et pourtant se distinguer des membres du groupe. Ceci s'explique encore par le rôle de médiateur girardien que le chef doit incarner. Pour qu'il entraîne l'équipe, il faut que le mimétisme fonctionne, que les membres de l'équipe se sentent un peu comme lui. Or, le mimétisme ne se déclenche pas sans un minimum d'identification. C'est pourquoi le chef doit ressembler aux membres de l'équipe. Ils doivent pouvoir se dire qu'il est comme eux. Mais pas complètement comme eux. Si c'est le cas, il ne sera pas en mesure d'incarner une intention. Car il faut que le médiateur jouisse d'un certain prestige aux yeux des membres du collectif qu'il dirige. Sans quoi le mimétisme ne fonctionne pas. Trop de familiarité est une menace pour le prestige. Nul n'est un héros pour son valet de chambre, disait Goethe. Voilà la deuxième recommandation de l'anthropologie girardienne. Une personne qui dirige un collectif doit trouver un équilibre entre distance et proximité. Il est tout autant destructeur, pour lui, de traverser l'atelier sans dire bonjour à personne que de prendre l'apéritif tous les soirs avec le groupe.
Je pense à un autre argument pour éviter trop de proximité. Tu nous as souvent expliqué que Girard voyait dans une trop grande proximité une source de rivalité mimétique.
C'est vrai, nous avions employé la formule « le matelot jalouse le quartier maître, pas l'amiral de la flotte ». Sur un mode plus plaisant, c'est la phrase que René Goscinny mettait dans la bouche du vizir Isnogoud « Je veux être calife à la place du calife ». Mais il faut également penser aux rivalités au sein même de l'équipe. De telles rivalités ne sont jamais positives pour personne. Elles peuvent toujours se produire du fait des trajectoires individuelles. Un chef avisé doit repérer ses difficultés et s'efforcer de les apaiser.
Comment faire?
Les conseils classiques restent bons. Donner l'exemple d'un comportement modeste est préférable à l'arrogance et l'autosatisfaction. Pour se concentrer sur des enseignements girardiens, nous avons d'abord une recommandation très simple. C'est que le dirigeant évite de se mettre lui-même en compétition avec un collaborateur. Dit comme cela, personne ne le ferait. Mais l'un des pièges classiques pour un responsable est de chercher à montrer qu'il a autant de savoir-faire que son collaborateur sur son activité propre. Même si c'est le cas, il est préférable qu'il le garde pour lui. Une autre recommandation est directement issue des analyses de René Girard sur les rivalités mimétiques. Pour éviter ces rivalités, il faut souligner les différences, mettre en avant tous les éléments de différenciation.
Mais justement, ces différences ne sont-elles pas la source des antagonismes?
L'anthropologie mimétique montre que non. Je sais bien que cela va à l'encontre de l'intuition immédiate. Mais occuper le même terrain est le meilleur moyen d'irriter la compétition mimétique. C'est pourquoi si une spirale de rivalité s'élève entre deux membres du groupe, le chef doit intervenir, non en soulignant ce qui les rapproche, mais en soulignant ce que chacun a de spécifique à amener du fait de sa dimension personnelle, des particularités de son expérience et de son caractère, etc. L'anthropologie de René Girard nous suggère encore une recommandation quant à l'art de diriger les autres. Elle nous met en garde contre la facilité qui consiste à désigner des boucs émissaires.
Comment cela?
J'ai rencontré bon nombre de managers, de conseillers ou de théoriciens qui pensaient avoir découvert le grand secret. On crée la cohésion entre les membres d'un collectif en leur trouvant, voire en leur inventant, un ennemi commun ou une menace commune. C'est le recours au mécanisme du bouc émissaire. Il est patent qu'un ennemi commun soude une équipe. Mais l'enseignement de Girard devrait nous amener à prendre nos distances avec de telles méthodes.
Pourquoi?
D'abord, il s'agit d'un mécanisme archaïque. Nous pouvons quand même espérer en sortir. Ensuite, c'est un mécanisme arbitraire. De même que les boucs émissaires sont le plus souvent innocents, les ennemis désignés par les dirigeants qui emploient ces méthodes ne le sont pas autant que cela. La plupart du temps, il s'agit de différents mineurs artificiellement gonflés. Enfin et surtout, le recours au bouc émissaire recèle pour toute l'équipe un grand danger, celui de se dédouaner trop facilement, de se trouver de bonnes excuses pour à peu près tout. C'est la faute des clients, c'est la faute de l'autre équipe au bout du couloir, c'est la faute de l'administration, c'est la faute des grands chefs, c'est la faute des gens sur le terrain, etc. Or, sans regard critique et réaliste sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous améliorer et aller vers nos finalités.
Jean-Louis, peux-tu récapituler les enseignements de René Girard sur l'art de diriger des collectifs?
Nous avons identifié quatre recommandations inspirées par l'anthropologie de René Girard. Premièrement, le responsable d'un collectif doit incarner une intention pour ce collectif, une intention qui ait un sens et de la valeur pour chaque membre. Deuxièmement, il doit être le médiateur de cette intention, c'est-à-dire en inspirer le désir à tout le collectif. Cela réclame de trouver le bon dosage entre distance et proximité. Troisièmement, il doit veiller aux effets de rivalité et les combattre par la différenciation. Un collectif n'est pas une collection de clones. Quatrièmement, il faut éviter la facilité de rechercher la cohésion du groupe par le recours à des boucs émissaires.
C'est bien entendu, Jean-Louis. Au revoir.
Au revoir, Catherine. Merci aux auditeurs.